cet espoir, tel une encre pour mon âme dans la tempête. Je m'appuie sur toi dans ton amour. Toutes mes craintes disparaissent. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix, tu as tout donné, tu nous as racheté. Cet espoir
Bonsoir frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est une occasion encore en ce jour de pouvoir partager la parole de Dieu, pouvoir échanger avec vous sur un sujet qui me tient à cœur, puisque dans les soins pastoraux, nous abordons ce sujet. Et c'est vrai que le message que je veux vous apporter ce soir sort un peu de l'ordinaire, de ce qu'on peut apporter dans les mardis ou les dimanches, puisqu'on va parler des couples. Et le thème de ma prédication est le suivant: ceux qui font un bon mariage, ne sont pas chanceux, ils sont simplement intentionnels. Et je crois que ça se travaille d'avoir un bon mariage, d'avoir un mariage qui dure dans le temps, d'avoir un mariage de qualité. Et c'est pour ça que je vais introduire ces moments avec quelques témoignages qui sont là. Par exemple, ce frère qui dit ceci: « Je vais être honnête avec vous, mon mariage est le plus lourd fardeau de toute ma vie. » C'est ce que m'a partagé un jour un frère, alors qu'il cherchait l'âme sœur, alors qu'il cherchait un conjoint et la joie de pouvoir se marier. Mais finalement, c'était un mariage raté parce que c'était un mauvais mariage. Pour différentes raisons, on ne va pas rentrer dans le sujet ce soir. Mais un autre exemple d'une sœur où elle a dit ceci: « J'étais plus heureux quand j'étais célibataire. » Alors, dans ce cas de figure, comme disait quelqu'un, « Vaut mieux être seul et célibataire que seul en étant marié. » Parce que seul et célibataire, on peut commencer à construire, ou en tout cas envisager de construire quelque chose dans le futur. Mais seul en étant marié, eh bien, on se sent comme piégé, on se sent comme pris dans un étau, dans quelque chose dans lequel on peut pas se débattre. Et comme il y a tellement de foyers qui sont en difficulté à cause de cela. Et c'est pour ça que je voudrais prendre du temps ce soir avec vous, ben, pour partager tout simplement ces paroles, de simples paroles, simples pensées. On va pas tout dire ce soir parce qu'il y aurait beaucoup à dire. J'ai un message qui a besoin de plusieurs sessions, mais en tout cas vous donner quelques pensées, quelques éléments qui vont vous permettre peut-être de vous aider à reconstruire quelque chose qui est cassé dans votre vie de couple, ou en tout cas à envisager pour ceux qui sont célibataires à construire quelque chose de solide. Un autre témoignage d'une sœur, et celui-là il est positif, il a dit ceci: je bénis Dieu d'avoir su attendre, aujourd'hui je suis la plus heureuse des chrétiennes. Et ça c'est réjouissant de savoir que cette sœur a su attendre, a su mettre tous les éléments de son côté, a su laisser Dieu agir de manière puissante. Puis un frère a dit ceci: « Ma femme est la plus grande source de joie après Jésus. Je n'ose imaginer où je serais sans elle, ni comment j'aurais affronté ma maladie sans l'avoir à mes côtés. » Et je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'il a réalisé la valeur d'avoir une femme, une aide, un soutien, une bénédiction à ses côtés. À la lecture de ces témoignages, alors une question se pose. Et je pense que c'est une question qu'on devrait tous se poser. Au bout de 10 années de mariage, quelle sorte de larmes verserez-vous? Au bout de 10 années de mariage, quelle sorte de larmes verserez-vous? Je pense qu'il est important de réfléchir à ça, afin que ce ne soit pas des larmes de douleur, mais des larmes de joie. Non pas des larmes de tristesse, mais des larmes de bonheur. Alors, aucun mariage n'est facile, et on le sait tous. Aucun mariage n'est facile, mais certains le construisent et d'autres détruisent le mariage, en fonction de ce qu'ils vont mettre en place. Et c'est vrai que certains futurs mariés, parfois, ben, m'ont fait peur, parce que, ben, en voyant un petit peu comment ils menaient leur future préparation, eh ben, ça, c'était pas très réjouissant au futur qu'ils allaient rencontrer. Mais tout est une question de pourquoi. Et ça, c'est très important. J'insiste là-dessus. Tout est une question de pourquoi. Pourquoi désirez-vous vous marier? Je pense que ça, c'est une bonne question. C'est la question que vous devez vous poser avant de choisir qui épouser. La question du pourquoi est plus importante que qui, parce que si on est capable de répondre au pourquoi, on sera capable de répondre à qui et avec qui je veux me marier. Mais si vous commencez par le qui, il sera difficile de répondre au pourquoi, et très souvent, et beaucoup de gens se sont trompés à cause de ça. Le qui est conditionné par le pourquoi. Et si tu sais pourquoi tu veux te marier, alors tu sauras qui épouser. Pourquoi tu veux te marier? C'est très intéressant ça, de savoir pourquoi. Quel est le but de notre mariage? Est-ce que c'est pour combler ma solitude? Est-ce que c'est pour quitter papa et maman? Est-ce que c'est pour me retrouver avec quelqu'un, avoir un peu de compagnie chez moi? Si on commence à analyser comme cela, je pense qu'on peut très très rapidement faire fausse route. Et quand on aime quelqu'un pour son physique, eh bien, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attirance. Et souvent, dans avec qui je veux me marier, eh ben, on va chercher quelqu'un qui est physiquement beau. Alors, c'est sûr qu'il faut que la personne nous plaise. Mais si c'est fixé sur le physique, alors on va chercher juste l'attirance. Et quand on aime quelqu'un pour son intelligence, eh ben, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'admiration. Quand on aime quelqu'un pour son argent, ce n'est pas de l'amour, c'est du profit. Vous voyez, je crois qu'il est important de savoir pourquoi je veux me marier. Mais quand on aime quelqu'un selon les valeurs du royaume, alors c'est de l'amour avec un grand A, un amour divin, un amour même avec un grand D, l'amour de Dieu, l'amour selon le cœur du Seigneur. Un verset va vous aider pour cela, un verset extraordinaire qui va vous amener à avancer, même si vous êtes marié. Ça nous aide tout le temps dans notre vie. C'est dans Matthieu, au chapitre 6, au verset 33, il est dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Nous sommes exhortés à rechercher d'abord le royaume de Dieu. La vie de couple a une priorité, non pas, je dirais, avec qui je dois me marier, mais ma priorité, c'est de chercher d'abord le conseil de Dieu, le conseil divin, le royaume de Dieu pour mon mariage. Tu trouveras la bonne personne en priorisant la bonne personne. C'est-à-dire la bonne personne, c'est le Père Céleste. Cherche le Père Céleste et tu trouveras un époux et il te confiera une épouse. Il te dirigera, il t'inspirera. Parce que je crois aux connexions divines, non pas seulement au niveau professionnel, non pas seulement au niveau spirituel, mais la connexion divine au niveau d'un époux, d'une épouse, au niveau d'un conjoint, d'avoir une connexion qui vient selon le cœur de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Deux personnes affamées ne désirent pas forcément manger dans un même restaurant. Eh bien, deux personnes qui désirent se marier ne cherchent pas nécessairement le même type de relation. Et c'est pour ça que nous avons besoin du conseil de Dieu, pour que l'union se fasse sur le même type de relation, qu'il n'y ait pas un décalage, qu'on ne se soit pas marié avec une personne qui ne va pas nous correspondre. L'exemple, l'homme aura plutôt tendance à tomber amoureux d'une femme physiquement attirante, alors que l'aspect physique est ce qui change plus chez l'homme et chez l'être humain. Et si on cherche que le côté physique, ben, il faut savoir que dans quelques années, l'homme ou la femme aura changé, aura évolué. Peut-être se sera, excusez-moi, empâté, peut-être aura certainement, c'est sûr, vieilli, aura eu un autre physique que celui qu'il avait au début de son mariage. Alors il faut penser que le mariage, ce n'est pas l'attirance physique seulement, mais il y a aussi l'attirance divine, la connexion de Dieu et selon Dieu. On ne se marie pas pour rester jeune ensemble, mais pour vieillir ensemble. Et ça, c'est très important. C'est très important de comprendre cette réalité de Dieu dans notre vie. C'est pour cette raison qu'un mariage avec une personne inconvertie, ben, est suicidaire. C'est pour ça que je vous ai dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et si un des deux ne cherche pas le royaume de Dieu, vous allez au suicide de votre couple. Vous allez à l'échec de votre couple. Parce que le couple, c'est une connexion divine. Vous savez, j'aime bien donner cette image du triangle, voyez. Vous mettez Dieu en haut, puis l'homme et la femme en bas, et plus vous vous approchez de Dieu, et plus vous rapprochez l'un de l'autre. Mais si un des deux qui s'éloigne de Dieu, ben vous allez vous éloigner l'un de l'autre. Vous voyez, c'est pour ça qu'on ne peut pas se marier avec un inconverti. C'est juste inconcevable et difficile à comprendre. Moi, il m'est difficile de comprendre les gens qui veulent s'engager dans une impasse. Parce qu'il y a tellement de difficultés dans la vie que si on commence avec le couple, eh ben, ça va être difficile pour le futur. Alors, premièrement, je dirais ceci, cela nous amène à la passion amoureuse. C'est important de comprendre la passion amoureuse. La durée de vie moyenne de la passion amoureuse est presque toujours inférieure à 2 ans. Vous savez, le coup de foudre, et puis qu'une fois marié, on s'emballe, et puis voilà. La passion amoureuse, a maximum 2 ans. Mais écoutez bien, parce que je crois que c'est très important. La passion amoureuse n'amène jamais à faire un choix objectif. Pourquoi ça n'amène jamais à faire un choix objectif? Parce que un amour avec passion, eh ben, nous disqualifie de la réalité. Déjà, à l'origine, j'ai cherché un petit peu le mot passion. À l'origine, le mot passion vient du latin passio, qui signifie souffrance. Dans la passion, il y a systématiquement la souffrance. Une souffrance, et c'est pour ça que quand on parle de la passion de Christ, c'est la souffrance de Christ. Vous voyez, mort à la croix. Eh bien, s'il y a une passion dans le couple, il va y avoir une souffrance. À quel niveau il va y avoir une souffrance? À plusieurs niveaux. Voici quelques signes de passion, de souffrance amoureuse. Ça va peut-être vous aider pour construire votre futur, ou même peut-être dans votre vie actuelle, où vous aurez peut-être besoin d'ajuster certaines situations. Le premier signe, c'est que la personne se focalise sur les qualités de son petit ami et néglige et minimise ses défauts. C'est-à-dire quelqu'un qui est complètement passionné par son petit ami ne voit jamais les défauts. Pour lui, pour elle, ben pour lui, elle est parfaite ou il est parfait. Voyez, on ne trouve jamais rien qui soit mal. Et ça devient dangereux parce que une fois marié, quand on a passé cette période de passion, on se retrouve face à une réalité et on risquerait de déchanter. L'un des partenaires, et ça c'est le deuxième point, l'un des partenaires où les deux cherchent à tout prix à conquérir l'autre. Et quand on cherche à tout prix à conquérir l'autre, on ferme les yeux à beaucoup de choses et on fait beaucoup de compromis. Et ça fait partie de la passion qui devient dangereuse dans une future relation. Troisième point sur la passion, les amoureux deviennent émotionnellement dépendants l'un de l'autre. Quelqu'un de passionné, eh ben, il est émotionnellement dépendant l'un de l'autre et il n'arrive plus à se détacher. Il y a tellement d'émotions que la réalité n'est plus présente. Elle est étouffée par ses émotions. Je dirais un quatrième point important, le désir sexuel est très fort et la relation se caractérise par une extrême possessivité qui entraîne à la jalousie. Et bien souvent, la passion entraîne aussi à des actes sexuels hors mariage, avant mariage. Et ça crée toutes sortes de désordres, avant même de dire oui devant Dieu, ça crée toutes sortes de désordres, de déceptions, de troubles et de mal-être à l'intérieur de nous. Alors, dans la passion, on idéalise la personne aimée pour la rendre conforme à ses attentes. C'est-à-dire qu'on cherchera toujours à ce qu'il soit conforme à ce que j'attends d'elle. On va enlever tout ce qui ne va pas, ses défauts, ses mimiques, son caractère, son mauvais caractère, bien sûr, tous ces côtés qui pourraient nous gêner. On va toujours idéaliser, et ça, c'est une voie de catastrophe par excellence. Alors, important, nous ne pouvons pas choisir de tomber amoureux, mais nous pouvons décider de ce que nous allons faire. Et si on tombe amoureux de quelqu'un comme cela, d'une personne, qui a forcément des défauts, parce que nous avons tous des défauts, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va les affronter ou on va fermer les yeux jusqu'après le mariage et se retrouver face à une réalité? Et puis après entendre les témoignages que j'ai introduits tout à l'heure de cette personne qui disait « mais si j'avais su, je ne me serais jamais marié ». Ou est-ce qu'on va être lucide? En fait, il ne faut pas se cacher la face. Il y a des défauts, des qualités, de part et d'autre. Il y a des points forts, il y a des points faibles. Et parfois, il y a des points délicats. Et je pense que nous avons aussi besoin de confronter les points délicats. Avec mon épouse, nous travaillons dans les soins pastoraux, dans la thérapie de couple et familiale. Et nous faisons aussi des préparations de couple. Et dans nos préparations de couple, nous sommes en huis clos avec les futurs couples, nous abordons d'abord et avant tout les points délicats, les points de blessure du passé. Parce que si on rentre avec les blessures du passé, on va confronter, et vous allez confronter dans votre vie de couple, ces blessures-là. Elles vont vous blesser toutes les deux. Et je crois que nous avons vraiment besoin de balayer ces choses. Et vaut mieux le savoir avant le mariage. Vaut mieux le balayer avant le mariage. Vaut mieux enlever finalement tout ce qui nous a peut-être cassé, détruit, blessé, affecté, offensé dans notre passé pour pouvoir rentrer dans un mariage libéré, transformé, heureux, que nous puissions être vulnérables, s'ouvrir à l'autre sans crainte, sans peur, sans avoir cette méfiance, et on va vraiment s'éclater dans notre vie de couple. Et ça, c'est très important. Arriver à un certain stade de la relation, c'est vrai que la transparence et la vulnérabilité est obligatoire. Et si on n'est pas capable d'être vulnérable l'un envers l'autre, si on n'est pas capable d'être transparent l'un envers l'autre, eh bien, ça va poser des problèmes. Si on commence à cacher à notre conjoint notre vie de blessures et toutes sortes de choses, ça va poser quelques soucis parce que plus tard, ça va ressurgir. Plus tard, eh bien, ça va infecter le couple, voire la famille, le foyer, parce qu'il y aura après des enfants par la suite. Je vais vous donner un exemple. Une femme issue d'un foyer brisé, séparée, craindra d'être abandonnée, aura tendance à se réfugier dans la relation et va se marier très rapidement. Et c'est vrai qu'il y a tant de gens comme ça, j'ai vu des exemples de femmes brisées, séparées, abandonnées, et aura tendance à se réfugier dans un mariage très rapidement pour trouver une accroche, un appui, parce que tellement blessée, tellement cassée, qu'elle va chercher chez un conjoint peut-être un papa, un confident, va chercher peut-être un docteur, quelqu'un qui va le comprendre, alors que dans la relation de couple, on a juste besoin d'un conjoint qui nous aime et pouvoir être libéré. Il ne faut pas chercher un conjoint qui va essayer de nous restaurer, il n'est pas là pour ça. Un conjoint n'est pas un thérapeute, un conjoint n'est pas un pasteur, n'est pas un psychologue, n'est pas un docteur, n'est pas un médecin. Il n'est pas là pour faire de la chirurgie, il est là pour aimer et qu'on s'aime, qu'ensemble on puisse s'y libérer complètement dans notre vie de couple. Alors attention au caractère et au vice. Et je voudrais pointer du doigt ceci, surtout quand on doit se marier, quand on doit faire une démarche de mariage, un petit ami colérique, violent, négligé, égoïste, radin, feignant, impulsif, empris à des addictions et j'en passe. Je crois que nous avons besoin de pouvoir peut-être réfléchir avant de dire oui. C'est comme courir le marathon avec un sac à dos très lourd sur les épaules. C'est-à-dire qu'on est en train de dire oui à un fardeau, d'accepter un fardeau. Je ne parle pas du conjoint, mais de ce qu'il lui porte, parce que vous allez le porter ensemble. Vous allez le porter avec douleur. Peut-être que lui aura été tellement épuisé qu'il aura besoin que ce soyez vous qui allez le porter à sa place. Mais on ne se dit pas oui pour ça. On ne se dit pas oui pour porter des fardeaux, mais en être libéré pour pouvoir vraiment s'engager dans notre vie de couple. Alors, c'est sûr que là, je pointe des points sensibles, des points délicats, mais il vaut mieux les traiter avant qu'après. Vous croyez pas? Je pense que ça, c'est très important. Vous devez savoir clairement à quoi vous vous engagez avant d'épouser votre conjoint. Je pense que vous avez le droit de connaître réellement son passé. Vous avez le droit de savoir si vous avez affaire à quelqu'un qui est solide ou fracassé, si vous avez affaire à quelqu'un qui est ferme et responsable, ou complètement, je dirais, relâché dans ses choses, où il est prêt très rapidement à abandonner toutes sortes de causes, où il n'est pas prêt à se battre pour son couple, pour son foyer, parce que là, ça va être compliqué et difficile. Alors, autrement, ça sera, c'est vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, un mariage chanceux et non intentionnel. Ça sera, je dirais, petit bonheur à la chance, ça passe ou ça casse. Mais en fait, c'est pas ça que nous avons le droit. Vous n'avez pas le droit de porter un mariage. Vous n'avez pas le droit d'être malheureux dans votre mariage. Vous n'avez pas le droit d'être triste dans votre mariage. Vous avez le droit au bonheur. Et ça, c'est prévu dans le contrat divin, dans le contrat spirituel. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, cherchez un homme, une femme, selon Actes, chapitre 6, et au verset 3, où il est dit ceci, « Choisissez une personne réputée, digne de confiance, remplie du Saint-Esprit et de sagesse. » Je répète, « Choisissez une personne réputée, digne de confiance, remplie du Saint-Esprit et de sagesse. » Si votre relation est construite sur le péché, alors sur quoi construirez-vous votre mariage? Dites-moi. Si votre relation avant le mariage est construite sur le péché, sur les douleurs, sur des cœurs fracassés, sur toutes sortes d'empreintes du passé, je dirais de souffrance, alors sur quoi construirez-vous votre mariage? Si les fondations ne sont pas solides, eh bien à un moment donné, en construisant votre vie, tôt ou tard, ça va s'effriter, ça va s'effondrer, ça va casser. Et vous allez repartir à zéro au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans de mariage. Ça serait tellement dommage, avec tellement de souffrances, je dirais en plus, par-dessus. Alors, sur votre futur conjoint, si votre futur conjoint, pardon, n'est pas attaché à Dieu, eh bien, vous n'aurez pas assez de ressources pour nourrir son intérêt. Écoutez bien, je le répète parce que c'est très important. Si votre futur conjoint n'est pas attaché à Dieu, vous n'aurez pas assez de ressources pour nourrir son intérêt, c'est-à-dire ses vides, ses frustrations et ses manques. Une mauvaise raison de vous marier vous amènera vers un mauvais conjoint, forcément. Et c'est pour ça que je voudrais vraiment vous éviter cela ce soir et vous éviter à rentrer dans quelque chose que vous pourriez regretter à un moment donné de votre vie. Vous pouvez commencer à protéger vos enfants avant leur mariage, donnez-leur un papa ou une maman attaché à Dieu. Et ça, c'est très important. Si vous voulez déjà commencer à protéger votre enfant, votre futur enfant, avant le mariage, alors donnez-leur un papa ou une maman attaché à Dieu, connecté au divin, qui se rapproche de Dieu comme sur le triangle. Et alors, vous allez vous rapprocher l'un de l'autre. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Je ne voulais pas être long, je suis au premier point, il y en a trois, vous voyez, il y a encore tellement de choses à dire, mais je ne veux pas trop vous charger au travers de cette capsule vidéo, mais juste vous donner déjà quelques points, quelques éléments pour vraiment, je dirais, aller de l'avant. C'est vrai que le deuxième point nous parle d'un partenaire de valeur. Peut-être j'aurai l'occasion de pouvoir vous partager cela un de ces jours, mais en tout cas, il est important d'avoir un partenaire de valeur. Et cela, eh bien, passe par Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et alors, toutes choses, conjoint et mari, époux, épouse, vous seront données par-dessus tout, par excellence et de manière incroyable. Alléluia. Permettez que je prie pour vous maintenant, afin que le Seigneur vous sature de sa grâce, vous inspire, alléluia, et vous remplisse de toute son intelligence, afin que vous puissiez saisir et capter la pensée de Dieu pour votre futur. Seigneur, je veux te prier pour les frères et sœurs, ces amis qui sont derrière leurs écrans. Seigneur, je veux te prier afin que ta grâce les touche maintenant, que ta faveur soit sur leur vie. Je veux te prier, Seigneur Jésus, afin que leur mariage soit un mariage intentionnel. Seigneur, soit un mariage, Seigneur, de bénédiction. Soit un mariage, Seigneur, de grâce, de puissance, alléluia. Un mariage, Seigneur, où ta grâce et ta faveur soient sur leur vie. Un mariage, Seigneur Jésus, où ta bénédiction soit là, Seigneur, que ta puissance soit là, que ta force soit là, Seigneur Jésus. Je veux te prier pour que vraiment ils puissent, Seigneur Jésus, saisir, Seigneur, leur futur. Seigneur, un mariage, Seigneur Jésus, qu'ils auront choisi. Un mariage qui sera selon le cœur de Dieu. Un mariage qui sera selon la volonté de Dieu. Je veux te prier, Seigneur, afin que ta puissance soit au plus profond de leur vie. Alléluia. Seigneur, manifeste-toi maintenant. Seigneur, je veux te prier pour que vraiment tu satures, Seigneur Jésus, ces amis qui sont là, à l'écoute, Seigneur, de cette parole, et qu'ils puissent vraiment embrasser ta parole, qu'ils puissent la saisir maintenant et rentrer dans la réalité divine. Dans le précieux nom de Jésus, à toi seul revient toute la gloire, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen ou Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et merci pour qui vous êtes, parce que le Seigneur connaît votre cœur et votre sincérité. C'est exactement ce qui est au plus profond de vous. Alors, il fera vraiment cette œuvre puissante en vous et il ne vous décevra jamais, parce que notre Dieu ne déçoit jamais. Que son nom soit béni. Bonne soirée.